Chaud devant, un Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal, Jésus est-il né un vendredi 13 et est-ce que cela lui a porté malheur?
Salut Marc.
Salut Samuel.
Alors comment vas-tu?
Oh, pas fort, tu sais.
Ah bon, et pourquoi ça?
Oh, tout est fini.
Ah oui, c'est sûr, bon, le festival est fini, mais pour autant, tout n'est pas fini. Tiens, pour preuve, ce week-end, il y aura la grande parade de la ville de Caen. Et il y a même une équipe du Festival de la Parole qui va y participer. Alors tu vois, il y a une suite.
Ouais, je sais bien, mais bon, je parlais pas du festival.
Ah, je vois, tu parlais de nos émissions de radio. Mais détrompe-toi, il nous reste encore bien 4 émissions avant la fin de l'année. Les choses continuent, tu vois, ça n'est pas fini.
Bah non, je parle pas des émissions. Je parle de la foi, je parle de Dieu.
Bah, qu'est-ce que tu veux dire?
Ben tu le sais bien, tout est fini, les baptêmes sont de moins en moins nombreux, les chrétiens pratiquent de moins en moins, et la Bible est quasiment plus connue, alors c'est foutu, c'est fini.
Comment ça, tout est fini?
Ben ouais, faut se rendre à l'évidence, on se bat contre des moulins à vent, puis ça fait des années que ça dure. De toute façon, les philosophes du soupçon ont forcément raison. Lorsqu'on a vu les guerres aussi terribles que celles qu'on a eues au XXe siècle, comment est-ce qu'on peut encore croire en Dieu?
Bon, enfin Marc, qu'est-ce que tu dis?
Ben je me rends à l'évidence. Il ne s'agit pas simplement de dire « mais enfin !» Après la Shoah, la bombe nucléaire, comment est-ce qu'on peut dire « Dieu est amour » ? C'est impossible. L'humanité a atteint le comble de l'horreur. De plus, on pourrait croire que les choses s'arrêteraient là. Mais pas du tout. Génocide au Kosovo, au Rwanda, massacre au Darfour. Puis je parle pas des dérèglements du climat, hein, les catastrophes en tout genre...
Bref, tu veux me dire quoi ? Que le monde va mal ? Que l'humanité est perdue ?
Mais non, pas du tout. Je veux te dire que Dieu est mort. Mais oui, après les réflexions de Nietzsche, de Kant, d'Hegel, après Marx, après Sartre, après Camus, faut bien se rendre à l'évidence, l'église s'effondre. Et si l'église s'effondre, c'est parce que Dieu est mort.
Ah bon?
Mais oui!
Donc, rien de nouveau sous le soleil.
Comment ça, rien de nouveau sous le soleil? Je te dis que Dieu est mort et tu me dis rien de nouveau sur le soleil? Circuler, y a rien à voir?
Bah oui, pourquoi s'alarmer? Tu dis Dieu est mort, c'est terrible. Mais ça fait 2000 ans qu'on le sait.
Attends, je te suis plus là.
Tu me dis Dieu est mort, tout s'écroule, c'est la catastrophe. Mais qu'annonce le christianisme?
Bah le christianisme, il dit que Jésus est venu pour nous sauver.
Oui, mais ça va plus loin que ça, non? Les doctrines du salut, il y en a dans de nombreuses religions, dans de nombreuses croyances. Dans le christianisme, on va plus loin. On dit que Jésus était Dieu lui-même, et que c'est Dieu lui-même qui vient nous sauver.
Ouais, c'est vrai.
Mais qu'est-ce que tout le monde connaît sur la vie de Jésus? Les chrétiens comme les non-chrétiens? Tout le monde le sait, c'est un fait historique. Jésus, il a été crucifié sur une croix. Comme un criminel, il est mort.
Donc tu veux dire que parce que Jésus est mort, Dieu est mort?
Il faut être clair avec nos croyances. Jésus n'est pas seulement celui qui manifeste un visage de Dieu ou un aspect de Dieu. Il n'est pas simplement l'envoyé de Dieu qui a une mission à accomplir. Jésus est l'incarnation de Dieu sur terre. Il est Dieu lui-même, venu dans un corps de chair.
Oui, mais Dieu, il peut pas mourir. Et si Dieu mourait, toute la création s'en trouverait détruite, puisqu'il est le créateur de toutes choses.
Attends, pas trop vite. Revenons à Jésus.
Bon, très bien. Alors, Jésus était admiré par tout le peuple et reconnu par de nombreuses personnes comme le Messie attendu.
Et pourquoi s'est-il retrouvé condamné alors?
Eh ben, parce que ça plaisait pas au pouvoir religieux en place. Eux attendaient un Messie politique, principalement, qui restaure l'unité de la nation. Et Jésus s'est présenté en Messie spirituel, qui ne fait pas de distinction entre les hommes et qui offre le salut à tous.
Bon, puis il y a autre chose?
Eh bien, la trahison de Judas, comme nous l'avons vu récemment.
Donc, Judas trahit Jésus, ce qui permet au Sanhédrin de se saisir de Jésus. Puis le juge, il le condamne.
Et tout ça la veille de la Pâque juive.
Seulement, l'autorité juive n'avait pas le pouvoir d'exécuter une sentence de mort, sans l'accord du pouvoir en place, puisqu'ils sont sous l'occupation romaine.
Alors ils vont voir Ponce Pilate, le gouverneur romain.
Le lendemain matin?
Le vendredi saint?
Le vendredi 13?
Pourquoi le vendredi 13?
Bah, on dit que c'était un vendredi 13 avril, non?
Bah, c'était le jour de la Pâque, ça c'est sûr.
Si c'était le jour de la Pâque juive, c'était probablement une date issue du calendrier...
Du calendrier juif et non du calendrier romain.
Voilà, comme la fameuse date de Noël. Mais pourquoi dit-on que c'était un 13 avril alors?
Alors là, je sais pas.
En tout cas, on dit souvent que le 13 porte malheur.
Ouais, mais je vois pas vraiment le rapport.
Combien de personnes mangeaient avec Jésus la veille de sa passion?
Eh bien 12, les 12 disciples, Judas y compris.
Et si je ne m'abuse, 12 plus Jésus, ça fait 13, non?
Diantre! 13 à table, ça porte malheur!
Eh, voilà l'explication!
L'explication de quoi?
Bah de cette superstition qui dit qu'il faut pas être 13 à table.
Ouais, c'est vrai ça, mais pourquoi faudrait pas être 13 à table?
Eh bien ça vient de là, du dernier repas de Jésus. La veille, ils étaient 13, et le lendemain, Jésus crucifié, Judas s'est suicidé, et ils ont plus que 11. De là vient la croyance que 13 à table porte malheur.
Bon, d'accord, ça remonte donc à loin.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Moi rien, je suis pas superstitieux.
Non mais, est-ce que tu penses que ça a porté malheur à Jésus?
Bah oui, parce qu'il est mort. Mais en même temps, c'était plus ou moins prévu. Jésus savait qu'il allait être condamné, non ?
Oui, Jésus le savait. Et il n'empêche pas Judas de le trahir. On dirait même qu'il encourage presque.
Et même lorsqu'on l'arrête, il empêche ses disciples de le défendre.
Et il dit qu'il pourrait très bien appeler des légions d'anges à son secours s'il le souhaitait.
Mais pourquoi il le fait pas ?
Parce qu'il a décidé de donner sa vie jusqu'au bout.
Alors il sera condamné, puis crucifié par Pilate, et il meurt le lendemain, le vendredi, à 3h d'après-midi.
Et nous y voilà. Dieu est mort.
Moi je dirais plutôt, l'homme est mort. Après tout, est-ce que Jésus n'est pas l'image de l'homme parfait, de l'humanité accomplie ?
Oui, tu n'as pas tort. Mais c'est aussi en cela qu'on y voit Dieu. L'homme accompli, l'homme parfait, celui qui répond parfaitement à l'appel de Dieu, devient transparence de Dieu, il devient ressemblance parfaite de Dieu, comme il était prévu à l'origine.
Et il les créa à l'image et à la ressemblance de Dieu, il les créa. Ouais, je vois. Mais peut-on vraiment dire que Jésus est Dieu ? D'ailleurs, sur la croix, ne dit-il pas « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» S'il parle lui-même à Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu.
Oh, tu sais Marc, on n'a pas fini de discuter si on parle là-dessus. Qui est Dieu ? Comment connaissons-nous Dieu ? Comment Dieu s'est-il révélé à nous ? Que connaissons-nous de Dieu ? Et que pouvons-nous connaître de lui ? Le christianisme, comme le judaïsme, parle d'un Dieu qui se révèle progressivement, qui se fait connaître petit à petit, comme si Dieu souhaitait éduquer son peuple et lui dire qui il est vraiment au fur et à mesure. Au début, le peuple n'est pas capable d'accueillir pleinement la révélation divine. Il est encore sous le joug de l'idolâtrie et du polythéisme. Alors, avec Abraham...
Avec Abraham, Dieu se montre comme le Dieu au-dessus des autres. Le peuple peut continuer d'adorer d'autres dieux mineurs, mais Dieu est placé au-dessus.
Puis, avec Moïse, on passe à une nouvelle étape. Non seulement Dieu est le plus grand des dieux, mais il est également le seul vrai Dieu et le seul qu'on doive adorer.
C'est le don de la loi, la Torah. Ce sont les commandements que Dieu donne à son peuple pour le suivre sur un chemin de sainteté.
Oui. Et ces commandements sont là pour éduquer le peuple, pour qu'il prenne au sérieux l'idéal de sainteté que Dieu lui propose.
Mais le peuple est infidèle, il trahit l'alliance.
Alors que fait Dieu ? Il décide d'envoyer un Messie. Jusque-là, chrétiens et juifs sont d'accord. Ensuite, les chrétiens prétendent que non seulement Dieu envoie un sauveur, mais en plus que ce sauveur, c'est lui-même.
Ouais, ça complique.
Oui, en un sens, ça complique les choses pour comprendre la nature de Dieu. Si Dieu se fait homme, et que Dieu est éternel, c'est qu'il y a un lien intrinsèque entre la nature de Dieu et la nature de l'homme. Ça, ça passe pas, ni chez les juifs, et encore moins chez les musulmans.
Bah alors comment l'expliquer ?
Chez les chrétiens, on appelle ça la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il se présente à nous de trois manières différentes. Il n'est qu'un seul être, unique, mais il est trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père, c'est le Créateur. Il n'a pas de corps, il est l'origine de tous les êtres. L'Esprit est lui, celui qui reste auprès de nous après l'ascension, après que Jésus remonte auprès du Père. Il est le souffle, la vie, la présence de Dieu en nous. Jésus est le Fils. Il est à la fois Dieu pleinement et à la fois homme pleinement. Il est l'accomplissement ultime de l'humanité et la révélation ultime de Dieu à l'homme. À travers Jésus, Dieu se révèle à nous sous un visage humain, sans rien perdre de ses prérogatives divines. C'est le mystère de l'incarnation de Dieu. On parle de la kénose de Dieu.
La kénose de Dieu ?
La kénose, c'est la volonté de Dieu de s'abaisser. C'est ce mystère chrétien qui dit que Dieu vient à l'homme comme un serviteur. C'est Jésus qui s'abaisse et lave les pieds de ses disciples. C'est Dieu qui donne sa vie totalement jusqu'à mourir.
Et à mourir sur une croix.
Comme un criminel.
Lui l'innocent ?
Lui, le vivant.
Il est mort.
Abandonné des hommes.
Trahi par ses amis, par ses disciples et par ses proches. Mais pourquoi fallait-il que ça soit nécessaire ? Après tout, Dieu est Dieu. Il pouvait bien s'y prendre autrement pour sauver les hommes, non ?
Il faudrait relire toute la Bible pour répondre à cette question. Certes, Dieu aurait pu faire autrement, mais son projet était de montrer son amour aux hommes. Il avait décidé de se donner totalement. Il a donc souffert et il est mort.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? À quoi ça sert ? Évidemment, si on s'arrête ici, comme le font les non-croyants, eh bien tout s'arrête ici, et plus rien n'a de sens.
C'est ce que prétendent les philosophes de la mort de Dieu. Ils disent que le monde est absurde, que la vie est absurde.
J'imagine bien que Jean, dont on dit qu'il était au pied de la croix, le seul disciple qui est resté fidèle à Jésus, j'imagine bien qu'il devait croire que tout était absurde. Après avoir cru que Jésus était le Messie, que peut-être, aussi incroyable que cela puisse paraître, il était Dieu lui-même, qu'il était capable de guérir les hommes, de changer les cœurs. Voilà qu'il est devant lui, torturé. Mort sur une croix. À ce point-là, tout doit paraître absurde. Si Dieu lui-même peut mourir, les hommes se retrouvent orphelins. Les voilà bien désemparés.
Et moi aussi.
Tu es désemparé ?
Bon, un peu quand même. Les chrétiens croient donc en la mort de Dieu. Nous croyons que Dieu est mort. Mais alors, comment est-ce qu'on peut vivre, nous, sans Dieu ? Tu dis que Dieu s'est totalement donné pour nous. Et nous voilà sans lui. Que pouvons-nous encore espérer ?
Nous ne pouvons espérer plus que deux choses. La victoire sur la mort et la venue de l'Esprit-Saint en nous.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que les choses ne s'arrêtent pas là. Un événement inimaginable est sur le point de s'accomplir. 3 jours après sa mort, Jésus va ressortir du tombeau. Il est vivant.
Il est vivant?
C'est le témoignage unanime des apôtres qui vont témoigner de sa résurrection à travers le monde entier. C'est l'événement fondateur de la foi des chrétiens. Jésus est vivant et il nous envoie l'Esprit qui donne la vie. L'évangélisation va commencer.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine,
Pierre et Paul sont dans un bateau.